mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Catherine et bonjour aux auditeurs.
René Girard a fondé toute une anthropologie, toute une vision de l'humanité sur le mimétisme et le phénomène du bouc émissaire.
Ces deux phénomènes font sortir l'être humain de l'animalité et le propulsent vers la culture. Puis la passion du Christ dévoile l'innocence des boucs émissaires.
Quelle est aujourd'hui la place de cette anthropologie dans le monde des idées? Est-elle reconnue? Est-elle contredite?
Disons que c'est une vision plutôt méconnue, qui suscite de l'admiration, mais aussi des réticences.
Quelles sont ces réticences?
René Girard cumulait au moins 4 handicaps. D'abord, bien que né en France, il a fait carrière aux États-Unis. Il se trouvait donc en marge de l'intelligentsia française. Celle-ci donne assez majoritairement dans l'anti-américanisme. C'est un premier handicap. Le deuxième handicap tient au grand nombre de disciplines sur lesquelles s'est appuyé Girard pour construire son anthropologie. Il est vu comme un non-spécialiste qui se mêle de tout. Psychologie, sociologie, ethnographie, analyse des mythes, histoire, religion, littérature, géopolitique. Dans notre société de spécialisation, les experts ne lui pardonnent pas ce qu'ils voient comme une intrusion dans leur précaré. Ainsi, Claude Lévi-Strauss, figure centrale de l'ethnologie, n'a jamais daigné faire la moindre allusion aux travaux de René Girard, malgré tout ce qu'il apporte à la discipline. Le troisième handicap est celui de la référence au christianisme. Non seulement les travaux de Girard l'ont conduit à la religion catholique, mais encore il voyait dans le christianisme un moment central de l'histoire humaine. En révélant l'innocence des boucs émissaires, le supplice de Jésus a ouvert la voie vers la sortie de la mentalité archaïque, mentalité avec laquelle, face au drame, on se réfugie dans l'immolation d'une victime émissaire. Cette référence au christianisme avait une telle force chez Girard que dès son troisième livre, la plupart de ses titres sont des citations des Écritures. Des choses cachées depuis la fondation du monde, la route antique des hommes pervers, quand ces choses commenceront, je vois Satan tomber comme l'éclair, celui par qui le scandale arrive.
En quoi est-ce un handicap?
C'est un handicap dans la société laïque, sinon anticléricale, qui est celle de notre pays. C'est moins vrai ailleurs, ce qui fait que René Girard est plus connu à l'étranger que dans son pays natal. Mais le handicap majeur de son anthropologie réside dans le mimétisme. Le postulat de base de Girard est que nous ne sommes qu'imitation. Même nos désirs sont imités ou inspirés par d'autres.
C'est un point de vue difficile à accepter. Nous sommes attachés à l'idée que nous sommes autonomes, en particulier pour nos désirs, dans lesquels nous voyons l'essentiel de notre personnalité.
C'est souvent la cause du rejet, plus ou moins avoué, de l'anthropologie de René Girard. Mais elle suscite aussi beaucoup d'admiration et d'adhésion. Et puis tout de même, Girard a été élu à l'Académie française. En 2005, Michel Serres lui a fait un magnifique discours de réception. Et Michel Zinc, qui a succédé à Girard au 37e fauteuil, a prononcé un non moins exceptionnel éloge. Si la pensée de René Girard suscite l'admiration, c'est qu'elle possède de nombreux points forts. D'abord, ce n'est pas une doctrine. Elle ne nous oblige à rien. Elle ne nous entraîne vers aucun militantisme. C'est une grille de lecture, un outil pour analyser ce qui nous entoure et ce qui arrive. L'anthropologie de Girard nous incite à réfléchir. Elle ne nous livre pas un stock de prétendues vérités toutes faites. Elle ne porte pas de jugement, ne serait-ce que par l'ambivalence de son hypothèse centrale, le mimétisme.
Comment cela?
Victor Hugo est en proie au mimétisme quand il s'écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien » et cela nous donne une œuvre magnifique. Par contre, un homme qui se laisse entraîner par mimétisme à participer à une lapidation, comme le raconte Yasmina Kadra dans Les Hirondelles de Kaboul, le résultat est effroyable. Il n'est donc pas possible de porter des jugements immédiats à partir du mimétisme. Il nous faut réfléchir.
Quels sont les autres atouts de la pensée girardienne?
Un autre atout est qu'elle a reçu une confirmation scientifique. Pour Girard et sa théorie, l'homme est un animal particulièrement mimétique. Dans les années 90, des neurologues italiens découvrent les neurones miroirs. Il s'agit d'une zone dans le cerveau qui nous permet de ressentir ce que ressentent d'autres personnes présentes. Mieux encore, les neurones miroirs permettent d'anticiper les intentions d'autrui. C'est la vision de René Girard. Les grands singes aussi ont des neurones miroirs, mais moins que les humains. L'anthropologie girardienne a encore d'autres atouts. L'un d'eux est qu'elle est ancrée.
Que veux-tu dire par là ?
Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'une théorie venue de nulle part qui chamboulerait d'un coup l'expérience accumulée par l'humanité. Nous l'avons dit, le mimétisme, comme le bouc émissaire, sont des phénomènes banals, connus depuis longtemps. La vision girardienne est cohérente avec beaucoup d'observations déjà faites. D'une certaine manière, elle les confirme, les synthétise. Et s'appuie aussi sur elle. Aristote explique que l'homme est le plus mimétique des animaux. Platon se méfie de la mimésis. Spinoza déclare que l'homme est fait de son désir. David Hume affirme, je cite, « Les esprits des hommes sont des miroirs les uns pour les autres ». Girard voit des prémices de ses conceptions chez Stendhal, Proust, Cervantes, Dostoïevski, Shakespeare et, bien sûr, la Bible, dans laquelle René Girard retrouve sa pensée sous forme de parabole. Ainsi, le sacrifice évité d'Isaac est-il pour lui la première dénonciation de l'erreur du recours au bouc émissaire. De même, les deux derniers commandements, redondants et moins concis que les autres, sont pour Girard une mise en garde contre le désir mimétique, qui est l'autre nom de la convoitise. Il est encore un argument en faveur de la théorie girardienne, c'est qu'elle est économe en axiomes. Axiome, hypothèse, postulat, ces mots signifient tous la même chose. Toute l'anthropologie de Girard découle de deux seules hypothèses. L'hypermimétisme de l'homme et la cristallisation de l'hostilité de la foule sur un bouc émissaire. En science, c'est une qualité pour une théorie que d'expliquer beaucoup avec peu d'hypothèses. On admire toujours Euclide qui a démontré toute la géométrie classique à partir de 5 postulats seulement.
Jean-Louis, tu as évoqué la puissance explicative de l'anthropologie girardienne. Peux-tu développer ce point ?
C'est en effet son principal atout. Elle explique beaucoup de choses, soit mieux que les théories habituelles, soit que nous n'avions aucune explication. Les sacrifices humains en sont un exemple. Tant les ethnologues que les spécialistes des mythes avaient bien remarqué l'universalité du phénomène. Mais aucun n'avait pu en proposer d'explication. L'anthropologie de Girard en propose une. Une tribu a échappé à une crise en immolant un bouc émissaire. Elle remet alors en scène périodiquement ce sacrifice pour éviter le retour de la crise. Le bouc émissaire l'ayant déjà sauvé, la tribu escompte que la réitération du sacrifice la préservera du retour de la crise. Au fil du temps, les sacrifices sont de moins en moins réalistes. Aux immolations d'humains succèdent celles d'animaux, puis des gestes symboliques. L'exemple de la psychanalyse permet aussi de mesurer tout l'apport de René Girard. Freud, comme praticien, observe des phénomènes, mais il multiplie les concepts pour tenter de les expliquer. L'inconscient, le ça, le moi, le surmoi, le complexe d'Édipe, le complexe d'Oreste, la pulsion de vie, la pulsion de mort, etc. Girard explique les mêmes phénomènes, mais sans multiplier les concepts. Ainsi, le complexe d'Édipe. Freud en fait un mécanisme autonome présent chez tous. Pour Girard, la lecture est plus simple. Le père est naturellement un modèle mimétique pour l'enfant, un médiateur au sens de Girard. Il arrive que ce mimétisme bascule dans son côté sombre, que l'enfant se mette à désirer sa mère parce qu'il voit son père la désirer. Le père est alors un obstacle et l'enfant se met à le haïr. C'est ce qui est arrivé à Stendhal. Or, d'un autre côté, une étude suédoise de plusieurs décennies sur une population cobaye a conclu que le complexe d'Édipe n'avait pas d'existence. La seule manière de concilier ces deux observations, c'est l'anthropologie de René Girard.
Merci Jean-Louis de ces exemples. Ils nous montrent de façon approfondie la capacité d'explication de cette anthropologie sur ces deux points précis. Mais nous aimerions avoir le panorama le plus large possible de tout ce qu'elle peut expliquer.
D'une certaine manière, c'est l'objet de l'ensemble de ces chroniques. Je mets donc ta suggestion en réserve, de façon à y revenir. Voilà qui va conclure notre émission du jour. Merci aux auditeurs de leur écoute et de leur patience. Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis.